vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de lois sécuritaires qui ont été votées depuis 2001, en fait, hein, essentiellement depuis la loi sécurité quotidienne, de Monsieur Vaillant, qui a commencé à permettre à la police de ficher, de légaliser ce qu'on appelle le système de traitement des infractions constatées, etc. Donc après, on a un certain nombre de lois qui se sont développées, qui ont été votées, de plus en plus dures et qui portent atteinte de plus en plus finalement à l'indépendance de la justice. Donc peut-être la question à se poser, c'est au-delà de la description de ces lois, ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui, on n'est pas là ensemble pour ça. On a entendu parler de ces lois pas mal quand même, la loi sécurité intérieure par exemple, qui pénalise la misère, vous savez, les prostituées avec le racolage passif, les jeunes dans les halls d'immeubles. On a entendu parler de la loi Perben 2, celle qui permet 72 heures de garde à vue, finalement pour beaucoup d'infractions et dans beaucoup de cas, etc. On en a entendu parler. Mais pourquoi, à quoi ça sert finalement? La question à se poser avant d'aborder l'attitude de la police, c'est pourquoi ça arrive ça maintenant? Moi, je pense que ces lois, ces textes sécuritaires ont trois fonctions. Et je vais essayer de les développer rapidement. Une fonction idéologique, une fonction purement sécuritaire, c'est-à-dire de construction d'un état pénal qui remplace ce qui s'appelait avant l'état social, après la guerre, en 1944, à la suite du programme du Conseil national de la résistance, a émergé en France un véritable état social avec des services publics, avec le développement des hôpitaux, de l'éducation, etc. Donc deuxième fonction, remplacement de l'état social par l'état pénal à la suite d'un chômage massif où de moins en moins finalement de gens malheureusement travaillent et où finalement il est plus facile de mettre en prison ou tout au moins de ficher pas mal de gens plutôt que de faire, entre guillemets, du social. Et troisième fonction des lois sécuritaires, à mon avis, une fonction économique qui souvent peut-être n'est pas perçue à première vue, mais qui est une vraie fonction réelle, le développement d'une industrie de la sécurité. La vidéosurveillance, les bracelets électroniques, beaucoup, beaucoup d'emplois dans la sécurité. Donc très rapidement, je vais essayer de vous parler de la première fonction des lois sécuritaires, cette fonction vraiment idéologique. Et elle apparaît très très nettement, cette fonction idéologique, quand on regarde, comme je l'ai fait, comme toute personne peut le faire, le programme du Front National et les réalisations effectives du gouvernement Sarkozy-Perben-Sarkozy-Clément, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur, garde des Sceaux, avec gouvernement Raffarin suivi d'un gouvernement Villepin. Donc, on compare ça, vous allez sur Internet, vous allez sur le site du Front National, vous regardez leur programme et vous regardez ce qui a été fait. Moi, j'ai fait ça de façon très modeste et j'ai vu que sur 24 propositions du Front National, il y en a 11 d'entre elles qui ont déjà été réalisées par le gouvernement depuis 2002. C'est beaucoup et surtout, c'est très inquiétant parce que toutes ces propositions du Front National, elles ont été totalement réalisées. Elles n'ont pas été partiellement réalisées, mais totalement. Petits exemples. Expulser les délinquants étrangers. Il suffit d'entendre la radio, la télévision, pour comprendre que c'est vraiment un objectif. Et d'ailleurs, M. Sarkozy a dit, quand il est revenu au ministère de l'Intérieur, là, on va en expulser 20 000 cette année, en 2005. Bon, c'est bien parce que, si je puis dire, parce que son programme est déjà tout à fait accompli puisqu'il y a 10 000 personnes qui ont été expulsées là fin juin 2005. Donc, les 20 000, on en est à 10 000. Autre exemple, hein, je ne vais pas vous détailler les 11 propositions du Front National déjà réalisées, mais je vous donne des exemples pour essayer d'illustrer cette fonction vraiment idéologique qui, pour moi, je pense, a pour but de capter l'électorat du Front National. Parce que tout ça est un problème en fait politique et la droite veut apparaître comme aussi sécuritaire que le Front National et la question c'est comment gagner les élections, les nouvelles élections en 2007, ça a été comment les gagner en 2002 et ça sera comment les gagner en 2007. Donc il y a par exemple une autre illustration, c'est organiser une coopération étroite entre police et justice. Ça s'appelle la chaîne pénale. Les gens qui ont été dans des tribunaux et des audiences comprennent ce que ça veut dire parce que ça s'appelle les comparutions immédiates. Et c'est assez terrible et on va le revoir dans les violences policières parce que, en fait, la police amène en quelque sorte une procédure à la justice. Ça, c'est une procédure policière. Pendant la garde à vue, la police élabore une procédure. Et finalement, il est très très difficile pour les gens, à l'audience, d'aller contre les preuves des policiers. Et ça s'appelle une chaîne pénale, c'est dans les circulaires, c'est un terme qui est totalement admis maintenant, y compris par les magistrats. Chaîne pénale, police-justice, ça pose un problème ça, parce que normalement la justice, elle n'a pas pour but dans une démocratie de faire une chaîne pénale avec la police. Elle n'a pas pour but d'entériner les décisions prises au niveau policier. Dans une démocratie, la justice, elle a pour but de contrôler la police, de condamner ou de ne pas condamner, mais en fonction des preuves qui s'offrent à elle. La Constitution nous dit que la justice en France, son objectif, c'est la sauvegarde des libertés individuelles. C'est l'article 64 de la Constitution. Et on voit bien que l'idée même de chaîne pénale, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Dans un sens, on a sauvegardé les libertés individuelles, c'est pour ça qu'il y a une justice. Sinon, ce n'est pas la peine. La justice, il suffit d'avoir une police, ça suffit. On met les gens en garde à vue, on fait de la condamnation automatique, il n'y a pas besoin de magistrats. Mais ce n'est pas ça. La Constitution, elle nous dit non. La justice, elle doit réfléchir avant de condamner, individualiser les peines, adapter les sanctions éventuellement au délinquant s'il a vraiment commis quelque chose, et sauvegarder les libertés individuelles. C'est pour ça que vous entendez parfois d'ailleurs que des procédures sont annulées. Ben oui, même quand il y a des délinquants, même quand il y a des gens qui font du trafic de stupes, des crimes, des délits graves, eh bien, quand c'est nul, quand la procédure est nulle, la garantie d'un état de droit, c'est que la justice annule les procédures, quelles qu'en soient les conséquences. Sinon, on n'est pas dans un état de droit. Autre proposition, donc je reviens à mon programme du Front National, rééchelonner la hiérarchie des peines. Alors, vous avez peut-être entendu M. Sarkozy, qui depuis 2 ans nous dit que la récidive, c'est très grave, il a raison, c'est très grave, et que les juges ne pourront plus décider que quand il y a quelqu'un qui est récidiviste, par exemple, il le laisse en liberté. Non, il faudra condamner automatiquement. Ça, c'est le système américain. Le système américain, c'est au bout de la 3e infraction, même si c'est un 3e vol, simplement, prison à vie. C'est pour ça que, d'ailleurs, aux États-Unis, il y a des villes-prisons. C'est pour ça que la sécurité, c'est tout un secteur de l'économie américaine. Donc, rééchelonner la hiérarchie des peines, c'est par exemple aussi la loi Perben 2. C'est-à-dire que la loi Perben 2, c'est un vol en série dans des horodateurs, par exemple, ce qui se passe dans de nombreuses grandes villes. Eh bien, ça, on considère que c'est de la criminalité organisée. 72 heures de garde à vue, par exemple. Moi, je suis juge d'instruction. J'ai vu ça cette année. On m'a présenté des jeunes qui avaient, à la sortie d'un lycée, ils avaient volé un scooter à un de leurs copains. Ils étaient deux. Il y a un gamin qui est passé en scooter, ils lui ont piqué son scooter. Bon, c'est ce que font beaucoup les jeunes, on le sait tous. Ils adorent les vols de scooter, les dégradations de cabines téléphoniques, les tags. Ça, c'est la délinquance typique des jeunes. Bon, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Sauf qu'avant, c'était des vols de vélo, maintenant, c'est des vols de scooter. Et puis, les vols de portable aussi, ils adorent ça. Bien, eh bien, ça, si vous voulez, jusqu'ici, bon, c'était un vol, à la limite, en réunion. Mais maintenant, ça devient un vol en bande organisée. Il ne faut pas croire que la bande organisée, c'est la mafia qui fait des laboratoires pour, pour raffiner de la cocaïne ou d'héroïne. La bande organisée, ce n'est pas ça. C'est un simple vol de scooter à 3 jeunes, ça s'appelle un vol en bande organisée. Avocat très tard en garde à vue, 72 heures de garde à vue, procédure véritablement d'exception avec possibilité d'écoute téléphonique, même sans intervention d'un juge, etc. etc. Donc, vous voyez, j'ai pris quelques exemples pour essayer de vous expliquer que dans les propositions du Front National, il y en a 11 qui sont effectivement réalisées. Par exemple, aussi, créer 13 000 nouvelles places de prison, il faut avoir conscience de ça. Parce qu'on se dit on a un gouvernement de droite, mais on a un gouvernement qui est, du point de vue sécuritaire, aussi bon que Le Pen, d'une certaine manière. Il y a un deuxième objectif des lois sécuritaires au niveau de l'idéologie. C'est que je crois que le but, d'une certaine manière, qui n'est pas un but du tout affiché, mais qui est un but réel quand on regarde comment ça se passe, c'est donc le remplacement de l'État social par l'État pénal. On a 10 millions de chômeurs en France. Il est certain que beaucoup de gens sont dans des situations extrêmement précaires, avec des contrats à durée déterminée, avec l'intérim, etc. Le nombre des expulsions locatives ne fait qu'augmenter. Le nombre de personnes qui travaillent tout en étant SDF, vous le savez, il ne fait qu'augmenter. On a des travailleurs pauvres maintenant en France. Bon, on a une situation économique absolument catastrophique. Et c'est vrai que par rapport à ça, le fait de produire du sécuritaire, de dire à la télévision en permanence que il y a des faits divers, que chacun est menacé, vous vous souvenez des élections présidentielles où on a vu ce pauvre monsieur, c'est sûr, hein, qui dit qu'il avait été attaqué par des petits délinquants à Orléans, Papivoise, ça a un but très idéologique, c'est-à-dire que quand on a l'impossibilité pour un gouvernement de satisfaire les gens du point de vue social. Quand il y a une grande insécurité sociale, comme le dit Robert Castel dans son petit bouquin excellent qui s'appelle « L'insécurité sociale », quand on a une incapacité d'un gouvernement à faire face à ces questions d'insécurité sociale, à résoudre le problème du chômage, à résoudre la question des services publics qui sont véritablement en déshérence, hein. Il n'y a qu'à aller voir les hôpitaux, il n'y a qu'à voir les personnes qui ont besoin, par exemple, de soins en matière de soins psychologiques ou psychiatriques. Moi, je travaille en banlieue. Il y a un mois de liste d'attente pour voir un psychologue. Donc, dans le service public, c'est catastrophique, le service public de la santé. Eh bien, quand on a une impossibilité du point de vue de l'État, du gouvernement, de résoudre ces questions sociales, évidemment, il est extrêmement facile d'agiter les questions sécuritaires. Parce que les questions sécuritaires, elles ont un objectif de leurre. C'est-à-dire exactement comme à la chasse. Un chasseur met un leurre pour attirer le gibier. Quand on a tous les soirs à la télévision des faits divers qui nous disent que finalement, le délinquant, c'est l'autre. Qui nous disent qu'il faut avoir peur éventuellement de ses petits voisins parce que ce sont des délinquants. Parce qu'on est environné d'une grande insécurité publique dans la rue, qui nous disent que de plus en plus, quand on est une personne âgée, on doit avoir peur des jeunes qui volent les sacs à main, les portables, etc. Ça a une fonction idéologique. C'est-à-dire que quand on a peur socialement d'être au chômage, de ne pas être bien soigné, eh bien le fait d'avoir peur de l'autre, de son voisin, ça dérive en quelque sorte ses préoccupations sociales, sur des préoccupations qui sont des préoccupations de peur de l'autre. C'est pour ça que je dis que le sécuritaire est une sorte de leurre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'insécurité, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que ça a une fonction. Et que pendant qu'on a peur des autres, des délinquants dans la rue, pendant qu'on nous parle systématiquement de chiffres de l'insécurité, on ne se préoccupe pas politiquement de l'insécurité sociale et de pourquoi le gouvernement n'essaye pas de prendre des mesures pour résoudre ces questions d'insécurité sociale. Donc c'est en cela que le sécuritaire a une grande fonction idéologique. Je pense que c'est très important. Bon, sur donc la question du traitement pénal des fonctions sociales, je ne vais pas développer, mais on a des tas d'exemples. Depuis 4 ans, on a eu donc la loi sécurité intérieure, donc, qui a pénalisé la pauvreté, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure. On a beaucoup de dispositions qui ont cherché à cibler tout un tas de gens. Et là, c'est quelque chose qui est grave pour nos libertés, parce que c'est le fichier policier qui s'appelle le STIC. On a 5 millions de personnes fichées au STIC, c'est-à-dire des gens mis en cause dans des procédures, simplement, sans être pour autant condamnés. Il y a 5 millions fichés. On a le FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques, qui est très très développé, on va le voir tout à l'heure, en ce sens que des infractions telles que les coups et blessures volontaires, les simples vols, le simple recel, un copain à vous pique un scooter et vous le gardez dans votre jardin, tout en sachant que c'est un scooter volé, vous êtes inscrit au FNAEG pendant 40 ans. 40 ans. les mineurs sont inscrits au FNAEG. Moi, à Créteil, mon procureur, c'est pas mon procureur, c'est le procureur de Créteil, il a eu la bonne idée d'appliquer la loi Perben 2, qui dit que les mineurs sont inscrits donc au fichier national des empreintes génétiques, c'est-à-dire à partir de 10 ans, les mineurs du Val-de-Marne qui ont été condamnés une fois pour vol, dégradation volontaire, des infractions très, très courantes, vont être inscrits au fichier national des empreintes génétiques. Là, il a un peu reculé, c'est-à-dire qu'il a dit ceux qui ont eu simplement des sanctions éducatives, par exemple une admonestation par le juge des enfants, ne seront pas inscrits, ce sera ceux qui passeront au tribunal pour enfants. Mais enfin, on peut tous avoir des enfants qui sont inscrits au FNAEG. Qui n'a pas volé quelque chose dans un grand magasin pendant son adolescence? Enfin, c'est quand même assez courant. Après, ben voilà, on se range des voitures, on devient adulte, on trouve un boulot. Enfin, c'est très très grave d'imaginer qu'un gamin qui a piqué dans un grand magasin un bouquin, un CD, etc., peut être inscrit au fichier national des empreintes génétiques.
Responsable des comités de chômeurs à Marseille.
Voilà.
On essaie de lui prendre.
Charles O'Haraud, par exemple, donc la pénalisation effectivement de l'action sociale entre tout à fait dans ce débat. J'y viendrai tout à l'heure avec le problème des violences policières. Effectivement, c'est une des conséquences des problèmes des violences policières. Quand on a affaire à la police, on est fiché au FNAEG quand on est condamné. Donc, troisième idée également sur la fonction de contention de toutes les lois sécuritaires, c'est l'idée que ça sert à contenir et à éliminer tout un tas de gens, entre guillemets, inutiles économiquement. C'est-à-dire quand on a 10 millions de chômeurs, on voit que parallèlement, on a 62 000 personnes en prison. Ça veut dire une augmentation de plus du tiers du nombre de détenus en 3 ans. C'est considérable, avec des condamnations pénales qui ne font qu'augmenter. 500 000 condamnations pénales par an en France. Donc ça, les condamnations pénales, c'est pas que les crimes. Les crimes, c'est une toute petite partie. C'est essentiellement correctionnel. Des délits avec beaucoup, beaucoup de condamnations en comparution immédiate. Donc cette fonction disciplinaire dont parlait Michel Foucault de notre société, et notamment de la justice pénale, c'est vraiment une fonction de contention. C'est-à-dire, d'une part, on élimine une partie de la population. En prison, on a essentiellement des pauvres. On ne va pas s'apesantir aujourd'hui là-dessus, mais on a des gens en prison qui sont pour beaucoup des personnes illettrées. Pour un tiers, des personnes qui ont des problèmes psychologiques graves ou psychiatriques. C'est-à-dire, il y a un tiers de personnes qui vraiment relèvent de la psychiatrie en prison. Pour beaucoup de gens, c'est des gens qui ont quitté leur famille à 14 ans, 16 ans. Des personnes qui, elles-mêmes, ont eu des graves, graves incidents ou accidents dans leur parcours psychologique personnel. Avec, moi, je suis juge d'instruction, je le vois bien. Hein, la plupart des gens que je vois à l'instruction, qui ont commis donc des crimes ou des délits graves, souvent, une mère qui s'est suicidée. Un père qui a quitté les enfants pour aller ailleurs et plus donner de nouvelles, alors que les enfants avaient 10 ans, 12 ans. Donc vraiment des parcours personnels des gens en prison qui, pour beaucoup, sont des parcours avec véritablement de très, très graves problèmes psychologiques et à titre personnel et dans la famille. Bien. Et on a effectivement donc une élimination d'une partie de la population par la prison. Et paradoxalement, une élimination sociale, parce que quand ces personnes sortent de prison, un problème énorme au niveau des services de libération conditionnelle qui ont de moins en moins de moyens, au niveau des services de contrôle judiciaire qui permettent d'éviter la détention provisoire, mais beaucoup d'associations de contrôle judiciaire sont des associations qui en ce moment ont des graves, graves problèmes financiers. Donc parallèlement, une impossibilité de la justice d'intervenir autrement que de façon, qu'en incarcérant, une difficulté véritablement, par exemple pour les juges de l'application des peines. Il faut savoir qu'en France, on a 700 juges de l'application des peines, mais ces 700 juges de l'application des peines suivent à peu près 17 000 détenus. Donc c'est pratiquement impossible pour un juge de l'application des peines de faire du travail sérieux en suivant les gens quand ils ne sont pas en prison. Voilà un peu ce que je voulais dire au départ, c'est-à-dire une fonction idéologique de la délinquance, une fonction véritablement de contention, d'élimination, et puis une fonction économique, c'est-à-dire que La troisième fonction, évidemment, des lois sécuritaires, c'est une sorte de construction d'une très grande industrie de la punition. Et ça, moi, je vous conseille de lire le bouquin de Nils Christie, qui est, là, qui est norvégien, je crois. Enfin, il est nordique, alors il est norvégien, c'est ça, norvégien, oui, oui. Et il a écrit ce bouquin aux éditions Autrement qui s'appelle L'industrie de la punition pour montrer que, au-delà de toutes ces fonctions idéologiques de la prison et puis du remplacement de l'état social par un état pénal, on a une vaste entreprise de sécurité, c'est-à-dire que la punition, ce sont des emplois. Il y a 400 000 emplois en France dans l'industrie de la punition. Alors, par exemple, c'est des policiers. C'est des gendarmes, pardon. On a 250 000 policiers et gendarmes en France. On a 120 000 vigiles et avec la perspective d'en recruter davantage. Il doit y avoir normalement 14 000 policiers et gendarmes qui seront recrutés, qui sont en train d'être recrutés depuis 2007. Donc ces emplois-là, les gardiens de prison, les policiers, ce sont des emplois qui font qu'une fois qu'on a mis en place un certain nombre de prisons, je vous rappelle que 28 prisons nouvelles vont être construites d'ici 2007. Une fois qu'on a construit ces prisons, on ne peut plus revenir en arrière. Et ça, l'exemple des États-Unis est extrêmement éloquent pour nous, c'est-à-dire que vous avez une partie de l'économie américaine qui vit grâce à l'emprisonnement, qui vit grâce à la sécurité, mais une fois que ces villes-prisons sont construites, comment voulez-vous faire pour revenir en arrière? Vous ne pouvez pas dire à ces personnes, les gardiens de prison, les surveillants, les policiers, « Salut, c'est fini, maintenant on fait du milieu ouvert, on fait de l'éducatif, on fait de la peine intelligente, par exemple, travail d'intérêt général, libération conditionnelle, semi-liberté, tout un tas de choses qui existent, qui permettent à la fois de punir les gens, mais de ne pas les éliminer de la société, de leur faire faire, par exemple, un travail d'intérêt général au profit d'autres personnes pour leur faire comprendre que, premièrement, c'est mal d'être délinquant, mais deuxièmement, on peut se racheter, on peut se réinsérer en essayant de s'intéresser aux autres. Mais on ne pourra pas. Une fois qu'on a des emplois dans la punition, vous n'allez pas dire aux gens « Salut, vous faites du milieu ouvert et c'est fini, vous n'êtes plus gardien de prison. » Ça sera extrêmement difficile de revenir en arrière. Et ça, c'est ça qui fait peur un peu. C'est que c'est un peu irréversible, cette société qu'on met en place en ce moment, de façon économique. Quand on met partout des caméras de vidéosurveillance, comment on fera après pour les enlever, pour convaincre les gens que finalement, c'est pas utile, c'est pas très utile. Les caméras de vidéosurveillance, on le sait quand on est magistrat, on sait que la délinquance, elle se déplace. Sauf que des caméras de vidéosurveillance dans une ville, c'est un marché, en gros, de 100 000 euros. Donc c'est intéressant pour tout un tas de sociétés qui vivent grâce à cette industrie de la sécurité. Par ailleurs, on est en train, donc avec ces fichiers ADN, ces fichiers, tous ces multiples fichiers, c'est pareil, de mettre en place une sorte d'économie de laboratoire où on inscrit dans des laboratoires, notamment à Lyon, à Écully, tout un tas d'empreintes génétiques. Et ça coûte très cher à la fois à nous, contribuables, à l'État, mais c'est quelque chose qui sera irréversible. Il est donc question d'inscrire 300 000 empreintes génétiques au fichier des empreintes génétiques d'ici 2007. Une fois que ce sera inscrit, on ne pourra pas ensuite dire « c'est fini ». Les empreintes seront inscrites au système de traitement des infractions constatées, fichiers policiers, donc, où sont inscrites les personnes qui ont affaire un jour à la police lors d'une garde à vue. Une fois qu'il y aura, c'est ce qui est prévu, 15 millions de personnes inscrites dans ce fichier policier, bon, on s'en servira, c'est évident. Donc ce que je veux vous dire, c'est que toute cette vaste économie de la sécurité, il faut réfléchir pour savoir si nous, on est d'accord avec ça. Parce qu'une fois que ce sera mis en place, tous ces fichiers, tous ces caméras de vidéosurveillance, tous ces emplois, on ne pourra pas, à mon avis, revenir dessus. Ce ne sont pas des questions idéologiques, ce sont des questions économiques. Et vous savez très bien que les questions économiques, c'est très difficile après de revenir là-dessus, c'est assez irréversible.